יובי. סבבה. טוב, alors ערב טוב לכולם. ערב טוב pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les grands personnages de la résurrection du peuple juif ces 100-150 dernières années. Et aujourd'hui, ce soir, un tout petit peu particulier. Parce qu'effectivement, on va parler d'un personnage très important, mais ce personnage, on va le replacer dans une étude plus générale qui va nous ramener à la fête qui arrive dans 2 jours, à savoir Tu Bishvat Igia Chag La Ilanot. C'est-à-dire Tu Bishvat Igia Chag La Ilanot Ine Zeba. Alors, on va faire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va commencer par parler de notre personnage et on arrivera à Tu Bishvat grâce à ce personnage. C'est-à-dire, alors, ce soir, je voudrais parler de quelqu'un qui est extrêmement méconnu. Extrêmement méconnu, et pourtant, on va voir que son action, que ce soit en dehors d'Israël, en Israël, va être une action absolument incroyable et qui va avoir des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Prenons un exemple. Je vais prendre un exemple tout bateau. Je crois connaître plusieurs personnes qui nous écoutent ce soir, et de manière générale, je crois connaître le style de personnes qui nous écoutent en général. Et si je devais prendre un exemple avec toi-même, Élie, eh bien, je prendrais comme exemple la chose suivante. Tu ne m'as pas l'air d'être le style qui voulait mettre ses enfants quand ils sont nés au Haider. C'était pas le style d'aller au Haider et les filles, les jeunes filles au Bessiankev. C'était pas vraiment le style. Toi, tu voulais, ben oui, je pense. Toi, tu voulais qu'ils aient un enseignement où ils pouvaient apprendre aussi la Torah, évidemment, mais aussi les mathématiques et la physique et passer le bac et voilà. Et donc, tu t'es dit, puisque je veux qu'ils aient un enseignement de mathématiques, de physique, d'anglais, tout ça, je vais les mettre dans les écoles chiloniotes. Dans les écoles non religieuses. Parce que c'est soit tu vas au Heider, soit tu vas dans les écoles où il n'y a pas du tout de Torah. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche en Israël.
Maintenant, on va à l'école coranique.
Voilà, il y a l'école coranique aussi. Les amis, le fait qu'il y ait aujourd'hui un concept de Bet Sefer Mamlachti Dati, qu'il y ait une école, un concept d'école où on enseigne et le Chol et le Kodesh, c'est l'homme qui va nous intéresser ce soir. Ce n'est qu'un exemple, on y reviendra dans la notion de Bet Sefer, mais que vous compreniez à quel point il va avoir une influence jusqu'à aujourd'hui dans la façon dont étudient nos enfants. Alors, oui,
j'avais un copain qui disait que il a tout survie parce que les Haredim, ils ont beaucoup moins de Chol.
Zahon.
Les Kélonim, ils ont beaucoup moins de Torah.
C'est Nahon.
C'est
très vrai. C'est très vrai ce que tu dis. Faudrait pas que parce qu'on a tout, mais en rabais. Faudrait pas qu'on devienne des personnes qui ont un peu d'anglais, un peu de maths, mais qui sont pas très bons ni dans l'un ni dans l'autre. Baruch Hashem, dans le milieu des études, on va dire des sciences générales, c'est bon, on a réglé ce problème-là, on n'est pas moins fort en maths que n'importe quel lycée non-juif, et non-juif, et juif, et en Israël, et en Khoutzlaaret, l'homme échané. C'est-à-dire que je pense que les écoles, Mamlartiot, Datiot, ont des résultats au bac en sciences et en histoire, en ce que tu veux, ça peut être des très très bons résultats, comme on peut avoir dans n'importe quel pays du monde, en Israël ou ailleurs. Donc ça, je pense qu'on a réglé le problème. La question doit se poser au niveau de la Torah. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a une Torah qui est forte et qui est bien présente, ou est-ce que c'est une Torah un petit peu light? Et j'avoue que là-dessus, il faudra peut-être un petit peu plus s'engager. C'est-à-dire, je pense que le Tzibour Dati Lehoumi, il a mis énormément d'accent sur le fait d'être une élite dans les sciences, dans la culture et tout ça, et c'est très bien. Il a peut-être pas encore mis l'accent sur le fait d'être une élite dans la Torah. Mais Bezrat Hashem, ça va venir. En tout cas, Quoi qu'il en soit, le personnage qu'on va évoquer donc ce soir, c'est Rav Dr. Zev Yahavetz. Rav Dr. Zev Yahavetz est vraiment, c'est quelqu'un, on va le voir, qui va laisser une empreinte pratiquement dans, je vais pas dire dans tous les domaines, mais dans énormément de domaines qui nous accompagnent aujourd'hui. Il est décédé il y a un tout petit peu moins de 100 ans, puisqu'il est décédé en 1924, et pourtant, eh bien, sa patte est partout. Alors, venez, on va rentrer dans le vif du sujet et parler un petit peu du personnage. Alors, bon, le Rav Yahavetz va naître en Pologne, dans le nord-est de la Pologne, en 1847, et il vient d'une famille aisée. Les parents ne sont pas rabbanim ou quoi que ce soit, ils sont religieux, ce que vous voulez, mais ce sont également des personnages qui ont des biens fonciers, qui ont donc de quoi voir venir, et qui veulent énormément s'occuper de l'éducation de leur fils. Et donc, très très vite, eh bien, le petit Zev Wolf Yahavetz, le petit Zev Wolf, bon, Zev Wolf, c'est un combo qu'on retrouve pratiquement toujours en Europe de l'Est. Mon grand-père s'appelait Willy Zev Wolf. C'était Willy, c'est Wolf, et Zev, c'est le loup en hébreu. Donc, on a cette sémette Milim qui arrive tout le temps. Mais qui sont très très jeunes, ses parents, évidemment, vont lui enseigner la Torah, vont lui payer des gens qui vont lui enseigner la Torah, mais, et ça, ça mettre au crédit des parents, ils vont également payer des professeurs particuliers pour d'abord lui enseigner les langues. Il faut bien que vous compreniez une chose, on est en 1847, dans la deuxième moitié, ça c'est sa naissance, mais il va grandir, machin, dans les 10 premières années de sa vie. On est dans la deuxième moitié du 19e siècle, ce qui veut dire que en Pologne, c'est le moment où la Kala, l'émancipation, est de plus en plus présente. Et donc, une famille qui est dans la Torah et qui va quand même aller donner une éducation, j'ai envie de dire profane, mais ça n'est pas profane, mais une éducation de langue et ainsi de suite à son fils, c'est extrêmement rare. Mais le fait que le petit Zev Wolf apprenne les langues, et c'est pas Stam, il apprend les langues, il apprendra à parler français, il apprendra à parler anglais, il apprendra à parler allemand, et tout ça va lui servir de tremplin, parce que, évidemment, il va apprendre à parler polonais, bien sûr, hébreu, et ça, ça nous paraît évident, mais ça l'est pas du tout à l'époque. Ça l'est pas du tout à l'époque, parce que je vous rappelle qu'on est encore, allez, disons, en 1860. Je rappelle qu'en 1860, il n'y a pas encore eu Ben Yehuda. Il n'y a pas encore eu la résurrection de la langue hébraïque. Que même en Eretz Israël, les gens qui habitent en Eretz Israël, ils parlent yiddish. Donc, on a, enfin, pas tous yiddish, hein, évidemment, mais je veux dire, l'hébreu n'est pas du tout présente comme elle est aujourd'hui. Donc, le petit Zev Yahavetz grandit avec une capacité à lire dans pratiquement tout ce qui est écrit. Plus ou moins tous les écrits sont en allemand, en polonais, en français. L'anglais est très peu utilisé à l'époque, mais quand même. Donc ça veut dire que, et évidemment l'hébreu, la Torah et tout l'enseignement de nos sages. Donc il grandit avec des armes énormes. Il grandit avec des armes énormes qui vont lui permettre, eh bien, de s'occuper de ce qui l'intéresse le plus. Ce qui l'intéresse le plus, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Il est fan de Flavius Joseph et il adore apprendre l'histoire et particulièrement l'histoire du peuple juif. C'est un féru de l'historiographie juive. L'histoire, les langues et la résurrection du peuple juif sur sa terre, eh bien, vont lui faire tout simplement prendre conscience en 1887, donc il est âgé de 40 ans. Alors, entre-temps, je vous rassure, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait pendant 40 ans? Alors, il est jeune, il grandit, il étudie, il apprend, ok. À un moment donné, à 20 ans, il va commencer à aller travailler. Il essaye de monter une petite affaire, ça ne marche pas. Il en monte une deuxième, ça ne marche pas. Il monte une troisième affaire, ça ne marche pas. Finalement, il se met en shoot-à-foot avec un cousin à lui, enfin, pas cousin, c'est grave, avec son beau-frère, parce qu'il s'est marié entre-temps, il s'est marié à 18 ans, et ça marche, sauf que la shoot-à-foot, elle est très simple, le beau-frère, il bosse, et lui, eh ben, il est dans des livres d'histoire, il est dans des livres de sciences, il apprend tout le temps. Il est complètement subjugué par la réussite de la résurrection juive en Eretz Israël. Ainsi, eh bien, c'est sans surprise qu'en 1887, juste après donc ce qu'on appelle Soufot Benegev, c'est-à-dire juste après les événements de la Aliyah Rishona en 1882, eh bien, il arrive en Eretz Israël. Il arrive en Eretz Israël. Au début, il va s'installer à Yehoud. Et après un an passé, un an et quelques à passer là-bas, il va être sollicité par le baron de Rothschild, lui-même en personne, pour devenir le directeur de l'école de Zichron Yaakov. Zichron Yaakov, c'est l'école la plus importante du Yishuv juif à Mitradesh, des nouvelles implantations juives de cette époque-là. Devenir le directeur de Zichron Yaakov, ça montre qu'il a un statut énorme. Alors pourquoi il a ce statut? Eh bien, c'est un rabbin. C'est un rabbin, Rav Zev Yavetz. Mais c'est pas seulement un rabbin. Ça est un rabbin qu'il connaît aussi le français. Et ça, le baron de Rothschild, eh bien, ça lui parle. Ça lui parle parce que pour lui, rabbin plus français égale le Rav... On en a déjà parlé. Et Rav égale le Rav Tzadok Kahn, le Rav Tzadok à Cohen, qui était le Yamim, le grand rabbin de France. Et le Rav Tzadok Kahn est celui qui avait dit au baron de Rothschild et au baron de Hirsch de ne pas investir leur argent en Égypte, mais bel et bien d'investir leur argent en Eretz Israël. Le baron de Rothschild l'avait écouté, le baron de Hirsch est resté sur son plan de l'Argentine. Et donc finalement, le baron de Rothschild, pour lui, Rav, qui parle français, ça fait référence au Rav Tzadok à Cohen, et donc, eh bien, ça sonne bien. Résultat des courses, s'ils voient un rabbin qui arrive en Eretz Israël et qui parle parfaitement le français, eh bien, ni une ni deux, il le place comme étant le directeur de l'école. Et il va chambouler l'école, parce que il va prôner, parce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, il va prôner tout simplement la réunion des mondes. Attention, le Rav Zev Yavetz n'est pas du tout un rabbin assimilé. Il est tout à fait conscient, il l'écrit, il est tout à fait conscient que la culture des goyim, il appelle ça Tarbut Achutz, la culture extérieure, elle n'est absolument pas à mettre à la place du monde juif. Il va nous expliquer que pour lui, la culture juive, c'est la recherche de la compréhension de Dieu. Pour lui, Tarbut Yehudit, Zedat Elohim. Et pour lui, Tarbut Agoim, Zedat Ateva. Ok. Dat Ateva. C'est-à-dire toutes les sciences qui s'occupent de comprendre le monde. Et le Rav Zev Yavetz nous dit, eh bien, ce n'est pas du tout deux choses qui doivent être en compétition. Bien au contraire, c'est grâce à notre compréhension du monde qu'on arrive à comprendre Dieu. Et l'une des choses qui va être le plus suivie par le Rav Zehavetz en Eretz Israël, c'est qu'il va lire tous les papiers à ce sujet-là, si bien que ça va lui permettre, après avoir lu tous les papiers qui s'écrivaient, mais je te parle, encore une fois, pas que dans le peuple juif, mais surtout dans tout ce qui s'écrit en allemand, en français, et ainsi de suite, il est passionné d'agronomie. Pour lui, la science qui permet de faire refleurir la terre, c'est extraordinaire. Il va tout lire et finalement, eh bien, il va tout simplement écrire des livres de halakhot. Des livres de halakhot sur ce qui s'appelle Mirtav Mimarot Haaretz, ou alors son livre Rosh Hashanah Laïlanot Mimarot Eretz Sefor. Toutes les halakhot, toutes les lois qui concernent mitzvot atluot ba'aretz, mais avec leur explication agronomique de comment on peut les mettre en pratique à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc on a un rabbin qui est complètement intégré dans ce que se fait de mieux chez les goïms pour pouvoir le mieux possible comprendre la volonté divine. Et ça va être le chemin qu'il va mettre en place dans son école, et c'est exactement ce modèle-là qui va commencer à conquérir le monde juif. Et aujourd'hui, toutes les écoles juives, mis à part le Haïder, eh bien, fonctionnent sur le modèle du Rav Zev Yavetz, où il y a l'enseignement de la Torah et également l'enseignement de toutes les sciences du monde. Et si on a un bon directeur, eh bien, il arrive à expliquer que les deux vont de pair. C'est-à-dire, les deux vont de pair. D'ailleurs, le Rav Yavetz racontera une des rencontres qu'il a beaucoup marqué au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, alors, faut se rappeler une chose. Au début du XXe siècle, la situation est un petit peu compliquée. Première guerre mondiale, da-da-da. D'ailleurs, on n'a pas encore terminé la biographie du monsieur. Mais à un moment donné, il va repartir d'Israël et il ne pourra pas y revenir à cause de la guerre. Et finalement, il mourra en Houtz-Laharetz. On verra ce qu'il fera quand il sera en Houtz-Laharetz. Mais une des choses qu'il va faire, c'est partir dans un endroit que peut-être vous connaissez, je ne sais pas, un endroit en Suisse. En Suisse, il y avait une yeshiva. Je ne sais pas si vous connaissez. À Montreux. Eh oui, la yeshiva de la famille Botchko, le Rav Yerachmiel Eliyahu Botchko. Et il raconte qu'il a trouvé là-bas un homme qui avait tout à fait compris ce que lui prenait dans son école. Comme dira d'ailleurs le Rav Moshe Botchko, le fils du Rav Yerachmiel Eliyahu, qui disait, quand il avait ouvert son école à l'école à Saint-Maur, l'école pour les jeunes, il disait, chez nous, il n'y a pas de matière profane. On n'étudie que du Kodesh à l'école. Les mathématiques, la physique, l'anglais, Gam Gemara, Mishnah, Halakha, Akol Kodesh. C'est-à-dire, le Rav Zev Yavetz, lorsqu'il va arriver en Israël, eh bien, il va être appelé très rapidement, puisque j'ai dit, il arrive en 1887. En 1888-9, il devient directeur de l'école donc de Zichron Yaakov. Et en 1890, il est appelé par un bon monsieur qu'on a déjà évoqué ensemble dans nos cours. Il est appelé par le Rav Yaakov Meir pour faire partie de ce petit groupe qui vont ressusciter l'hébreu. Il va donc faire partie de ce petit groupe qui va s'occuper de faire ce qu'on appelait Vad Alashon Ivrit. Petit groupe, je rappelle, dans lequel le Rav Yaakov Meir a demandé à un jeune homme qui s'appelait Eliezer Ben Yehuda d'en devenir le directeur. Le Rav Zev Yavetz fait partie de ceux qui ont ressuscité l'hébreu avec Eliezer Ben Yehuda et avec le Rav Yaakov Meir. Maintenant, pourquoi il est tellement mis en avant? Il vient d'arriver, ça fait 3 ans qu'il est là. Et il est tellement mis en avant. Il est tellement mis en avant parce qu'il a écrit un bouquin. Il a écrit un bouquin, la vérité, avant qu'il arrive en Israël. Mais c'est un livre qui a tellement marqué. Tous les enfants d'Israël l'ont. Tous les enfants d'Israël, alors j'exagère évidemment, mais tous les enfants d'Israël ont entendu parler de ce livre. Il s'appelle Sichot Mine Kedem. Sichot Mine Kedem, c'est, tu connais les contes de Grimm, de Perrault? Tu connais les contes d'Andersen? Bon ben, le Rav Zev Yavetz, il les a lus et il les a kiffés. Maintenant, non seulement il les a lus, mais il les a kiffés, mais il a dit, ok, si les goïms, ils sont capables de pondre des histoires avec comme base leur mythologie, eh bien nous également, nous avons largement de quoi pondre des histoires pour les enfants avec notre idéologie. Et donc, il va prendre, je vais pas dire toutes, mais énormément de Haggadot de Chazal, et il va les mettre en scène, les mettre en histoire pour les enfants. Une version des contes de Grimm, donc, version juive, avec le tampon de cachérisation. Sichot Mine Kedem. Je connais pas personnellement le Rav Zev Yavetz, mais d'après ce que j'ai lu de Sichot Mine Kedem, son personnage principal, son préféré, son personnage, il va y avoir 17 histoires sur lui, c'est Roni Ameagel. Il est fan de Roni Ameagel. Encore une fois, une histoire de quelqu'un qui fait tomber la pluie, l'agronomie. Il est fan de lui. Il a 17 histoires sur lui. Bekitsur, Sichot Minekedem. Il est donc considéré, et tout ça c'est écrit en hébreu, c'est ça le grand chidouche. Et donc il est considéré véritablement comme celui qui va participer à cette résurrection. Alors, très bien, une fois qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Une fois qu'on en est là, eh bien, une fois qu'on a pris part à tout cela, le Rav Zev Yavetz, pendant les 10 prochaines années de sa vie, va s'occuper tout simplement de faire connaître cette chita de partout. Il est envoyé pour parler à tout le monde, parce qu'il parle bien, il présente bien, et donc, comme je l'ai dit, sa vision va commencer à conquérir un petit peu partout. Pour ces raisons-là, il va être envoyé en Chutz La'aretz. Il va être envoyé en Chutz La'aretz, ça tombe pas trop mal parce qu'il a également de grands problèmes de Parnassa en Eretz Israël. Il part en Chutz La'aretz, mais là-bas, eh bien, vous imaginez bien, qu'est-ce qui se passe? S'il a commencé à bosser en 90, qu'il est resté 10 ans, ben, dans l'aube des années 1900, il arrive en Chutz La'aretz, on vient de passer le premier congrès sioniste. L'organisation sioniste mondiale est lancée, eh ben, tu m'étonnes. En 1902, le Rav Zev Yavetz rejoint l'organisation sioniste mondiale. Mais il rejoint en faisant un tollé général. Parce qu'il vient en proposant quelque chose. Il vient pas juste payer sa carte de membre et il dit, allez, je viens. Il vient, mais il propose quelque chose. Qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, il propose que maintenant, l'organisation sioniste mondiale s'occupe de la culture juive. Jusqu'à présent, l'organisation de Herzl ne s'occupait que de politique, de diplomatie. Rav Zev Yavetz nous dit, mais non, vous n'avez pas compris, on est en train de ressusciter le peuple juif. Il faut parler de sa culture. C'est ce qu'on appelle She'elata Kultura. She'elata Kultura dans l'organisation sioniste mondiale. Mais est-ce que le Rav Zev Yavetz vient tout seul en tant que monsieur Yavetz pour parler de cela? Ben non, il sait très bien que s'il veut que sa voix soit entendue, il faut d'abord qu'il vienne avec un gave, comme on dit en hébreu, avec un bon dos. Et donc, eh bien, il va faire partie des trois personnages qui vont créer, attention, tenez-vous bien, ben oui, vous avez compris, Hapoel HaMizrahi. Le Mizrahi, c'est-à-dire, eh bien, la branche datite, religieuse, de l'organisation sioniste mondiale. Il est le bras droit du Rav Reines. Il va être le père de ce qui est aujourd'hui tout ce que tu peux appeler Mavdal, Mifleget Atsionuta Datit, Mifleget je sais pas quoi, Yamina, tout ce que tu veux. Rav Zev Yavetz, il fait partie des trois qui vont le créer. Et en tant que fondateur du Mizrahi, il vient et il te dit, il faut qu'on s'occupe de la culture. Mais le problème, c'est que comme tous les grands personnages qui ont une vision tellement grande qu'elle dépasse leur temps, eh bien, il va trouver une itnakdout terrible, tant dans le monde chiloni de l'organisation sioniste mondiale, que dans le monde religieux. Les chilonim, ils disent, non, mais ça va pas, manquerait plus que ça, qu'un rabbin, il nous dise quelle culture doit être la culture juive. Et les religieux, ils disent, manquez plus de ça. On commence à s'occuper de la culture. Et donc, chez Elat Akultura, on se tourne vers le Rav Reines. Et il dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait quand on a demandé au Rav Reines et il n'a pas réussi à bégayer? Et quand on est tellement convaincu de son projet, mais que personne veut te... Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ces cas-là? Et qu'on est dans le début du XXe siècle. À qui on téléphone? Ben, il téléphone au Rav Kook. Il envoie une lettre au Rav Kook. Et le Rav Kook, il lui dit, Achi ou Bessari ata. Tu es mon frère, tu es ma chair. Enfin, il y a quelqu'un qui a compris. Il était temps. Aujourd'hui, alors ben, évidemment, ça n'a pas été accepté tout de suite. Mais aujourd'hui, bien, tout le monde est conscient que la culture juive est fondamentale et que cette culture juive, elle est juive. que tu ne peux pas la mettre de côté. Encore une fois, Arav Zev Yavet. Maintenant, j'ai dit, son dada, c'était l'histoire du peuple juif. Et donc, eh bien, il va écrire sa masterpiece. Sa masterpiece, ça s'appelle Sefer Toldot Israël. C'est tout simplement un livre d'histoire, mais pas comme, parce qu'il y avait déjà eu des livres d'histoire juifs. Il y avait par exemple Rabbi David Gans, l'élève du Maharal de Prague, qui avait écrit un livre Tzemar David, Histoire du peuple juif. Il y avait eu également un autre rabbin, bien plus tôt, les Sheiltot de Rav Chai Gaon, c'est-à-dire qui était un livre d'histoire également. Mais la différence, c'est que le Rav Zev Yaretz va écrire son livre d'histoire Sefer Toldot Israël comme un académicien. Il fait des recherches, il publie des articles, c'est-à-dire que son livre, c'est exactement un copier-coller de ce que pourrait être un grand livre d'histoire d'une autre culture. Il dit, il n'y a pas de raison que nous, on n'ait pas un recueil historique de notre histoire, mais écrit de manière extrêmement structurée, extrêmement précise, et ainsi de suite. Donc, si je devais récapituler deux secondes, le Rav Yavetz, c'est l'inventeur du concept des écoles qu'on a aujourd'hui. Le Rav Zev Yavetz, c'est l'inventeur du fait que la langue hébraïque fait partie des inventeurs de cette langue hébraïque qui fait partie intégrante du quotidien. C'est également l'un des inventeurs de la dimension toranique qu'il y a dans le mouvement sioniste mondial. Il fait partie de ceux qui vont tout simplement nous réapprendre que le judaïsme n'est pas seulement une histoire de Beth Amidrash, mais qu'il y a une culture juive qui prend ses bases et ses racines dans la Torah, qui doit être enseignée, qui doit être promue un peu partout. Vous allez me dire, bon d'accord, tout ça c'est très bien, c'est un grand personnage, j'entends, mais pourquoi on en parle ce soir? Eh bien, pourquoi on en parle ce soir? Parce que le Rav Zev Yavetz va être l'inventeur d'un minhag. La vérité, il faut dire la vérité, c'est pas lui qui l'a fait en premier. Mais ceux qui l'ont fait en premier l'ont fait incognito. Ils n'en ont pas parlé, personne n'était là-bas pour couvrir l'événement, mais lui, il en a entendu parler, et quelques 6 ans plus tard, il va le refaire, mais cette fois en grande pompe, et il va en faire un minhag. Vous voyez de quoi je parle? Le Rav Zev Yavetz est l'inventeur des Netiyot à Tu Bishvat. C'est lui qui va lancer le minhag d'aller planter des arbres à Tu Bishvat. Et vous comprenez pourquoi on en parle ce soir. Tu Bishvat dans 2 jours. Rabotai, il invente le concept. On va planter des arbres à Tu Bishvat. Le problème, c'est que ce que je viens de dire ne va pas du tout de pair avec ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il était fan d'agronomie. Parce que toute personne qui connaît un tout petit peu l'agriculture, l'agronomie, ce que tu veux, il sait que le pire moment de l'année pour planter des arbres, c'est Tu Bishvat. C'est-à-dire, t'as pas de pire moment dans l'année pour planter des arbres. Lama, parce qu'on est en plein milieu de l'hiver. Donc en plein milieu de la saison des pluies, ce qui fait qu'il n'y a aucune chance que la graine, évidemment. Autant pour moi. Et j'ai perdu mon français, tu comprends, c'est pas de ma faute. Mais Kitsou, il n'y a aucune chance que la graine, elle puisse s'implanter, donner des racines, machin. Les prochaines pluies qui vont arriver, elles vont tout emporter avec elles. Mais Kitsou, c'est pas le bon moment. En plus, il fait trop froid, la terre, elle est trop froide. C'est pas le milieu. Ah ah. Alors pourquoi il a commencé à planter des arbres à Tu Bishvat? Qu'est-ce qui se passe à Tu Bishvat? Bon, d'abord, je vous rassure, au début, on ne plante pas des graines. Au début, on plante des petits arbustes. Et donc, les petits arbustes, il y a moins de problèmes. Parce qu'ils ont déjà des pseudo-racines, et donc tu les plantes déjà avec de la terre, machin. Donc, nous, ça passe. D'autant plus que, en général, on ne va pas planter à Tu Bishvat des arbres fruitiers. On va planter des arbres à forêt. Mais ça doit quand même aller plus loin. Pourquoi Dafka à Toubishvat, on plante des arbres? Pourquoi le Rav Zev Yaaretz, il va lancer ce minag-là? Eh bien, pour cela, il faut se poser quand même la question, au niveau halakhique, qu'est-ce que c'est Toubishvat? Nous, on nous dit que c'est Rosh Hashanah Laïlanot. Quel Rosh Hashanah Laïlan, mais Toubishvat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, ça veut dire concrètement que c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à compter les années de l'arbre. Pour les mitzvot de Orla, de Netarevaï. Mais ça veut dire également, nous dit le Talmud de Jérusalem, que c'est à partir de ce moment-là que la sève monte dans l'arbre et puise son énergie, non pas des pluies de l'année dernière, mais commence à puiser de cette année. En d'autres termes, c'est le moment où l'arbre commence à vivre par la force de cette année. Pas sur ses réserves de l'année dernière. Donc c'est vraiment le début, le renouveau de la vie de l'arbre. Top, c'est un gamour, nous, ve. Eh bien, ve, si tout bishvat, c'est le renouveau de la terre, c'est le renouveau de l'arbre, ben, je veux bien, mais à ce moment-là, eh bien, tout bishvat, pour un renouveau, bizarre. Planter des graines à Toubishvat, pourquoi ne pas directement, ben, j'ai dit, voilà, planter un grand arbre déjà bien en place. Il faut bien comprendre une chose. Si c'est le début, alors c'est le début. D'après le judaïsme, il y a une marloquette de savoir quand Dieu a créé le monde. Quand Dieu a créé le monde, c'est soit, d'après Rabbi Eliezer, le premier Tishré, soit d'après Rabbi Yoshua, le premier Nissan. Maintenant, d'un autre côté, on va nous dire que 40 jours avant la naissance de quelqu'un, eh bien, il y a une voix qui sort dans le ciel et qui dit « Celui-là, c'est pour celle-là. » Genre, comme si le Zivoug était déjà mis en place. Rav Zev Yaaretz, il vient avec une explication incroyable. Il dit « Si il y a marqué dans les prophètes que Adam ou Etzassadé, qui a Adam Etzassadé. Cette phrase qui a Adam Etzassadé fait référence à qui? Que l'homme est un arbre des champs. Adam, d'après les prophètes, c'est Am Israël. Nous dira le prophète Yechezkel, Atem kruim Adam, ve'en umot ha'olam kruim Adam. En d'autres termes, qui a Adam Etzassadé, c'est Am Israël. Eretz Israël, c'est Batazoug. C'est notre bien-aimé. Si on nous dit que 40 jours avant la naissance de lui, de elle, eh bien, il y a une voix qui sort et qui dit, c'est ce Zivoug-là. Et que la naissance, c'est soit Rosh Hashanah, soit le premier Nissan. Ça veut dire que 40 jours avant, c'est le moment où, en fait, tout a commencé. La halakha, celui qui a raison, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est bel et bien Rabbi Yoshua. Le monde a été créé en Nissan. Et donc, 40 jours avant le premier Nissan, eh bien, c'est Toubishvat. Toubishvat, enfin, premier Nissan, c'est pas le premier Nissan. Le premier Nissan, c'est la création de l'homme, donc c'est 5 jours avant, c'est-à-dire Café, Be Adar, et 40 jours avant, c'est Toubishvat. En d'autres termes, Toubishvat, c'est le moment où la voix sort du ciel et dit « Bat ploni, le ploni ». C'est qui Bat ploni? C'est Eretz Israël. Elle est pour qui? Elle est pour Am Israël. Et donc, le Rav Zev Yaaretz dit « Bah voilà !» Donc, c'est à Toubishvat qu'il va falloir planter un arbre, symbole de cette réunion entre Am Israël et Eretz Israël. Le minhag qu'on connaît tous aujourd'hui, d'aller planter des arbres à Toubishvat, Arav Zev Yaaretz. Vous comprenez à quel point il va avoir une influence dans notre vie de tous les jours. C'est vrai que quand on a parlé du Rav Mordechai Eliyahu, des autres géants qu'on a évoqués, on a l'impression qu'ils ont une influence énorme sur des événements gigantesques. Le Rav Zev Yaaretz, lui, il a une influence sur le petit quotidien de tout temps. Il a changé notre façon de percevoir notre quotidien, de comment faire relier à Torah vers Olam. Son grand combat va être donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réunir à Torah vers Teva. C'est très très important. Parce qu'il y a une question qu'on doit vraiment se poser par rapport à notre histoire de Tu Bishvat, par rapport au Bichlal de manière générale. Tu Bishvat est la seule fête du calendrier juif qui, un, ne s'est pas encore passée, parce qu'il n'y a pas encore eu d'événement qui a touché le Ham Israël et qui s'est passé à Tu Bishvat, qui fait que la fête est devenue une fête halachique. C'est-à-dire que si dans deux jours personne ne veut manger de fruits, eh ben, personne ne fait de Avera. Ce n'est pas encore une halacha de faire Tu Bishvat. C'est un minag, très beau minag, moi je le fais, ce que tu veux. Ce n'est pas encore une halacha, parce qu'il n'y a pas encore eu un événement qui a touché le peuple juif à Tu Bishvat. Aval, d'un autre côté, si Tu Bishvat ne s'est pas encore passé, c'est une fête qui n'a pas eu de miracle non plus. C'est-à-dire c'est la seule fête du calendrier juif où il n'y a pas d'intervention divine. Vous allez me dire, mais non, il y a Pourim. Oui, mais d'abord Pourim, tous les commentateurs ils disent qu'il était là, mais il était caché. Et deux, même si tu ne veux pas aller là-dedans, Pourim, Megillat Esther, c'est dans le Tanakh. Donc c'est oui, dans le codex de la Névoie. Donc le dévoilement de Dieu, il est présent. Tu Bishvat, Zema Machlan, Zeshum Davar, il n'y a rien de divin. A priori du moins. En d'autres termes, c'est la fête par excellence de la nature. Mais pas seulement, je ne dis pas la nature dans le sens les arbres, dans le sens Ateva, Bichlala. Et là, il y a une question qu'on doit se poser. Bichlal, Aïm Yesh Teva? Est-ce que ça existe, Bichlal, la nature? C'est une vraie question. Parce qu'on pourrait très bien se dire qu'en fait, c'est Dieu qui à chaque instant renouvelle le monde. Si on dit ça, il n'y a pas de nature. Il y a constamment un renouveau de la création divine. C'est ce qu'on a l'impression de dire tous les matins dans la Tfila. Dans la Tfila, quand on dit dans les brachot du schéma, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mechadesh bechol yom tamid ma'ase bereshit. Ma? Mechadesh bechol yom tamid ma'ase bereshit? Bizarre! Moi, je croyais que Kivo Shavat Mikol Melarto, Asher Bara Elohim la Asot. Je croyais que Dieu il avait arrêté de bosser. Et que maintenant, c'était à nous de bosser. Donc, comment est-ce que je peux dire qu'il est Mechadesh Bechol Yom Tamid? C'est-à-dire qu'il recommence à chaque instant la création du monde. S'il s'est arrêté et que c'est Shabbat pour lui et que c'est à moi de bosser, nous dit Rabbi Chaim de Volozhin, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on dit que Dieu, il est Mechadesh, Bechol Yom Tamid, Ma'aseh Bereshit, que à chaque instant, Dieu, il met sa volonté qu'il y ait le monde. Mais ceux qui construisent ce monde, c'est un, le monde lui-même, et deux, les hommes. En d'autres termes, en bataille, la fête de Tu Bishvat, c'est la fête de la Teva. C'est la fête où il n'y a pas l'intervention divine, où il y a la nature que Dieu a mise en place, et cette nature, eh bien, lorsqu'elle est travaillée de compère avec l'âme Israël, eh bien, elle peut sortir quelque chose de grand. La réunion de Torah veteva, c'est-à-dire de l'étude théorique avec la réalisation pratique de ce qu'on a étudié, eh bien, ça aurait été le combat d'une vie pour le Rav Zev Yavetz. À tel point son influence est grande qu'il est parmi les personnages les plus influents au niveau académique dans les études non religieuses en Israël. Dans les études chiloniques, le Rav Zev Yavetz fait partie des personnages de la résurrection chilonite du peuple juif. Parce qu'ils disent, regardez, celui qui nous a dit qu'il fallait partir maintenant faire de la culture, s'occuper de la terre d'Israël, machin, Zev Yavetz. Alors, c'est très bien parce que quand tu es devant une grande classe et que tu fais un cours frontal, Tu peux dire Zev Yavetz, Zev Wolf Yavetz. Eh bien, fait partie de ces gens-là qui ont ressuscité l'identité d'Israël. Très bien. Quand tu n'es pas obligé de montrer de photos, ça passe. Tu ne l'appelles pas Rav et puis on n'en parle plus. Tu dis Docteur Zev Yavetz, ça passe. Bon, le problème, c'est quand tu regardes une photo du bonhomme, tu comprends qu'il avait quand même une barbe qui lui arrivait au nombril. Et tu comprends quand même qu'on parle d'un des rabbanim qui est complètement associé au Rav Reines, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui va être le maître à penser d'un monsieur qui s'appelle, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais le Rav Zev Yavetz va être un des rabbanim du Rav Maimon Fishman à Cohen. Le Rav Maimon, c'est le rabbin qui est à côté de David Ben-Gurion dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Donc, on parle de quelqu'un qui a tout compris à l'union entre Torah, Veteva, Veolam. Et donc, c'est tout naturellement qu'il a vu la fête de Tu Bishvat comme étant le moment où il allait mettre en place son minhag pour toutes les générations. Aujourd'hui, quand dans 2 jours on va fêter Tu Bishvat, et il faut se rendre compte qu'en fait Tu Bishvat, c'est la fête de ma responsabilité. C'est pour ça que c'est un minhag tellement important et qu'il faut le faire. J'ai dit, t'es pas obligé, mais il faut le faire. Parce que en fait, la fête de Tu Bishvat, les ors, à la lumière de ce que nous a enseigné le Rav Zev Yavetz, ça va de manière générale. Comme j'ai dit, c'est la fête où il n'y a pas de miracle. Donc c'est la fête où s'il n'y a pas de miracle, c'est à toi de bosser. C'est à toi de prendre les responsabilités de Asher Bara Elohim, la Hassot. Ainsi donc, eh bien, cette fête est basée complètement sur le minhag. Uniquement sur le minhag. Mamash. C'est minhag, 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 minhag. Alors, après, il y en a, on veut dire, voilà des minhagim. Attention, hein, le minhag à Tu Bishvat, il y en a plein. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on connaît comme minhagim à Tu Bishvat? Bah, le plus connu, c'est de manger des fruits. C'est-à-dire, c'est pas chaud. Nous dit, par exemple, le Tikkun Issachar, c'est le même auteur que le Bnei Issachar, Rabbi Issachar ben Mordechai ibn Susan, au XVIe siècle, nous dit Yom Tu Bishvat, Rosh Hashanah Leilanot, Lachen, Ein Noflim Apaim Vatfilas, on ne fait pas Tachanoun évidemment, Ve'Ashkenazim, Mazé Ve'Ashkenazim, Ken Ashkenazim, on parle de Chassidé Ashkenaz, Chassidé Ashkenaz du XIIIe siècle, Rabbi Yehuda Chassid, qui nous disent Noagim, L'arbot bo mine perot shel ha'ilan l'ichvod shmo shel ha'yom. C'est-à-dire que les premiers qui vont avoir le minhag de manger des fruits à Tu Bishvat, c'est Chassidé Ashkenaz. Mais ça ne va pas encore avoir une répercussion énorme. Quand on parle de manger des fruits à Tu Bishvat, ceux qui vont en faire un super inyan, on le sait, c'est les Mekoubalim de Tzfat, et donc ils vont mettre en place le seder de Tu Bishvat. Après, on a dit, on a parlé également de la Netiata Etzim. Netiata Etzim, voilà, on en a parlé là maintenant, du Rav Zev Yavetz, qui est celui qui va remettre ce minhag en place. Par exemple, il écrira, je vous cite, il écrira par rapport au minhag de planter des arbres, il dira, « Ki chutz mi ma sha'aya revar gadol me'aperot, alo gam » Ken nitzrach la briut ki adam et sa sade. C'est-à-dire que nous dit le Rav Yavetz, il dit non seulement c'est bien parce que comme ça on va pouvoir manger des fruits, mais en plus non c'est bon pour nous parce que l'homme c'est un arbre ki adam et sa sade. Donc le fait de planter un arbre en terre d'Israël, ça montre qu'on s'enracine nous aussi en terre d'Israël et c'est bon pour nous. C'est pas seulement bon pour les fruits qu'on va manger, c'est tout simplement bon pour nous. Alors il y a d'autres minagim qui sont venus se rajouter à cela, par exemple, eh bien, on va trouver des minagim un petit peu particuliers dans certaines kehilot au niveau des repas. Alors, m'en veuillez pas, mais corrigez-moi si je me trompe, chez les Tunisiens et les Yotze Louvre, Yotze, comment on dit, Libye, ont le minage de faire de manger la psissa à tout Bishvat. Vous allez me dire, non, c'est pas vrai, c'est à Rosh Chodesh Nissan. À Zegam, Vegam. C'est-à-dire, psissa, c'est une espèce de mixture faite de blé, d'orge, de shemen, zayt, de date, en fait des minimes de Eretz Israël. Pour ce qui est du Pnei Issachar, il dit qu'il faut à ce moment-là faire la tefila et demander à Dieu qu'on arrive à trouver un bon etrog pour la fête de Sukkot qui va venir l'année suivante. On a, par exemple, ce qui est intéressant d'ailleurs, pour les Juifs de Syrie, eh bien, il y avait le minag à tout Bishvat de sortir un Sefer Torah et de lire Aseret Hadibrot. Comme si le retour à l'arbre était un retour à la Torah. Ah, la relation est assez forte. Pour ce qui est des Juifs, et ça c'est très très intéressant, les Juifs Béné Israël d'Inde, ce qu'on va appeler les Béné Ménaché, Véchadomé, eh bien, eux, ils avaient un minhag très intéressant. Alors, ils avaient évidemment des repas aussi faits de semoule avec des fruits, mais ils avaient également le minhag de rattacher tout ce repas, non pas à la terre d'Israël seulement, mais au Beth Amikdash. Et effectivement, d'où est-ce qu'on voit qu'il y a une importance d'Afka de manger des fruits dans la Torah? Zeh mitzvat habikurim be Beth Amikdash. On avait l'habitude également, en Eretz Israël, d'aller sur les tombes du Sanhedrin. Bah, c'est Sanhedrin à Beth She'arim. À Beth She'arim, c'était à tout Bishvat qu'on avait l'habitude d'aller sur la tombe de Rabbi Yehuda Hanassi, des tzadikim du Sanhedrin qui sont enterrés à Beth She'arim. Donc on a ici pas mal de minagim qui sont autour de tout Bishvat, pas seulement de manger des fruits, mais qui sont des minagim qui vont tous nous rattacher et qui ont tous le même point commun, rattacher le peuple d'Israël à l'endroit dans lequel il peut se réaliser. Qui behemet à Adam ou Etzasadeh? Car effectivement, on l'a dit et le redit, eh bien, l'homme, il est cet arbre qui a ses racines très profondes et qui monte toujours vers le ciel pour chercher plus et plus de compréhension dans le dévoilement divin. Voilà, c'est exactement de cela qu'on parle. Arav, Zeev, Wolf, Yavetz, non seulement, non content d'avoir chamboulé nos vies dans l'éducation, dans la culture, dans le sionisme religieux, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire qu'on raconte aux enfants pour qu'ils comprennent ce que c'est Chazal, eh bien, en plus de tout ça, le Rav Yavetz va, grâce au minhag qu'il a implanté dans le peuple juif, là, j'ai vu que Eli a même envoyé une photo de ses enfants qui étaient en train de faire des plantations il y a quelques jours, il m'a envoyé une photo. Ben non.
C'est les enfants de Yoni.
Ah, c'est pas les tiens?
Non, c'est Yoni, ça
fait. Toi, tu les tiens les... Hein?
Moi, malheureusement, j'y étais pas. J'ai mis notre groupe de copains.
J'ai pas bien regardé. Alors, Mchané. Mais alors, faudra que tu demandes à Yoni. Est-ce qu'il sait que l'inventeur de ça, c'est le Rav Zeev Yavetz? C'est-à-dire qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte que je peux aller dans une école juive avec une kippa et j'étudie évidemment la Gemara, mais j'ai aussi après un cours de géo. C'est le Rav Zeev Yavetz. On se rend pas compte que le mouvement sioniste mondial, il peut accepter des gens avec des kippot. C'est le Rav Zeev Yavetz. On se rend pas compte que la culture juive est une question fondamentale dans le quotidien de la société juive, en Eretz Israël, c'est Rav Zeev Yavetz. C'est dans tout, il va influencer en catimini ou pas, et il va chambouler notre façon de voir les choses avec un seul objectif, réunir la dimension de Torah v'Teva, en vérité, réunir Am Israël et sa terre, la langue hébraïque, évidemment, on en a parlé, et réunir, en fait, Akadosh Baruch Hu, Be'olamo. C'est exactement cela qui va le pousser à la fin de sa vie. On est en 1924, il est à Londres, il est parti s'enfuir en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale, Et après, il tombe malade et il reste à Londres. Et finalement, il va mourir à Londres. Mais juste avant de mourir, il envoie une lettre au Rav Kook. J'ai parlé des lettres au Rav Kook. Il envoie une lettre au Rav Kook. On est en 1924. Le Rav Kook était très, très, très proche de lui quand ils étaient tous les deux en Angleterre. Mais finalement, eh bien, le Rav revient en Israël et il écrit une lettre au Rav Kook juste avant sa mort en 1924, dans laquelle il lui dit, et c'est criant parce qu'on est 100 ans plus tard, on est presque 100 ans plus tard, 96 ans plus tard, et on se rend compte que, eh bien, tous les éléments qui sont dans cette lettre qu'il a demandé au Rav Kook de mettre en place pour la suite, eh bien, ils sont là. Il demande au Rav que la place de la terre d'Israël soit dans le cœur de chaque enfant d'Israël. Que la place de nos sages dans le Talmud ne soit pas enseignée que aux gens qui étudient le Talmud, mais qui soit enseignée aux enfants dès leur plus jeune âge. Que la place de l'enseignement de la science, de toutes les sciences, la Pessah Chokhmat HaTeva, de la science de la nature, ne soit pas le secret gardé des goyim, mais qu'il soit également enseigné partout en Eretz Israël. En fait, il remet en place tous les points qu'on a évoqués dans notre shiur. Le Rav Kook lui répond, la réponse ne lui parviendra pas, parce qu'il mourra avant. Mais la réponse ne lui parviendra pas, mais elle parviendra à quelqu'un d'autre. Le Rav Kook meurt en 1935, et il dira à son fils, le Rav Tzvi Yehuda, eh bien, qu'il faudra absolument, absolument, absolument réaliser, j'allais dire le testament, les dernières volontés du Rav Zev Yaaretz. Il faudra le réaliser. On ne peut pas se permettre de ne pas le réaliser. Et tu devras, toi, avoir la responsabilité de réaliser le testament du Rav Yaaretz. Nous, il y a fait meurtre. Pour cela, le Rav Kook, en 1932, le Rav Kook, le père, eh bien, va participer à la fondation du Moshav Akfar Yahavetz. Kfar Yahavetz, Bacharon, à côté de Zichron Yaakov, qui existe encore aujourd'hui, Kfar Yahavetz, eh bien, le Rav Kook va énormément pousser pour la réalisation de ce Kfar. Et le Rav Tzvi Yehuda, lorsqu'il donnera le premier shiur qu'il donnera sur Ilchot Shmita, eh bien, il le donnera dans le Kfar Yahavetz. En souvenir, en honneur du Rav Zev Yaaretz. Rabotai, un personnage qui était tellement cohérent dans son cheminement, dans son état d'esprit, qui voyait la résurrection d'Israël allant de pair avec la résurrection de la terre d'Israël, qui voyait la résurrection d'Israël allant de pair avec, eh bien, la grandeur culturelle du peuple juif et sa capacité à apprendre de toutes les chokhmot pour réaliser Torah Hashem, eh bien, il est celui qui aura peut-être le plus réussi à comprendre et réaliser le propos de Tu Bishvat Igia Chag Leilanot, Erev Tov, Lekulam.